VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du mercredi 2 août 2017 en direct de Washington. Idrissa Sedoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
La France et l'Allemagne déterminées à étendre le soutien au G5 Sahel, assure à Bamako la ministre allemande de la Défense.
En Côte d'Ivoire, deux journalistes relâchés après 48 heures de garde à vue pour divulgation de fausses nouvelles.
En République démocratique du Congo, Reporters sans frontières et journalistes en danger déplorent la vague d'arrestations de journalistes lors des manifestations de lundi.
Rex Tillerson, le chef de la diplomatie américaine à la Corée du Nord, nous ne sommes pas votre ennemi.
En Afghanistan, un attentat contre la communauté chiite a fait près de 30 morts et au moins 63 blessés dans une mosquée à Herat.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Le soutien de la France et de l'Allemagne à la création d'une force anti-djihadiste du G5 Sahel va susciter d'autres contributions européennes. C'est ce qu'a assuré hier à Bamako la ministre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen, en tournée dans la région avec Florence Parly, son homologue française. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
La ministre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen, estime que l'initiative franco-allemande va renforcer le G5 Sahel et faire en sorte que d'autres pays européens vont soutenir cette force. Elle a rencontré Mahamat Saleh Anadif, chef de la mission de l'ONU au Mali. Sa visite intervient 6 jours après la mort de 2 casques bleus allemands dans un accident d'hélicoptère dans le nord malien. La ministre allemande a effectué une visite conjointe au Niger avec son homologue française, Florence Parly, qui a achevé hier une tournée au Sahel, entamée au Tchad. Madame Parly s'est rendue à Gao pour rencontrer les soldats français de l'opération Barkhane. Les dirigeants du G5 Sahel réunis le 2 juillet à Bamako en présence du président Emmanuel Macron ont retenu la mise en place de cette force régionale et débloqué des fonds pour commencer ses opérations en octobre.
En Côte d'Ivoire, libération mardi par le tribunal d'Abidjan de Dan Opelli, directeur de publication du quotidien, et de notre confrère Yves Couillot, qui venait de passer 48 heures en garde à vue pour divulgation de fausses nouvelles. Les deux journalistes sont toutefois convoqués devant le tribunal de première instance d'Abidjan le 20 octobre, ont-ils déclaré à l'AFP à leur sortie du tribunal. Vendredi, le quotidien avait annoncé le gel des comptes bancaires du président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro et l'ouverture d'une enquête contre lui. Des affirmations qualifiées le même jour de totalement fausses par le procureur de la République d'Abidjan, Richard Christophe Abdou. Il a appelé hier les journalistes ivoiriens. Monsieur Abdou a appelé hier les journalistes ivoiriens à plus de responsabilité et de professionnalisme.
En République démocratique du Congo, Reporters sans frontières et son partenaire africain Journalistes en danger ont déploré mardi les arrestations de journalistes la veille dans plusieurs villes du pays lors de rassemblements à l'initiative de mouvements citoyens pour demander la tenue d'élections. Lundi 31 juillet, ce sont au moins 15 journalistes qui ont été interpellés, arrêtés et parfois même agressés, écrivent les ONG dans un communiqué qui ajoute « Les journalistes ont été relâchés, mais la plupart de leurs images ont été effacées. » Les arrestations ont touché aussi bien les correspondants locaux que ceux des médias étrangers, selon les deux organisations.
Pour rester en République démocratique du Congo, un incendie a dévasté hier le bloc hébergeant les femmes et les enfants à la prison centrale de Goma, dans l'est du pays. Les détails avec Eric Manirakiza.
D'après un agent de la prison s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, les mineurs ont mis le feu à leur matelas en protestation pour avoir été privés de nourriture durant 3 jours. Mais le directeur de la prison, Patrick Mukendi, a refusé de se prononcer sur le caractère criminel de l'incendie et sur les allégations de privation de nourriture. Il a indiqué qu'une enquête est en cours pour déterminer l'origine du sinistre. La partie de la prison touchée est complètement consumée par le feu. Une femme et 2 garçons ayant perdu connaissance ont été évacués par une ambulance. En RDC, les prisons sont dans la majorité surpeuplées et mal entretenues. Les prisonniers sont essentiellement nourris par leurs proches. En mai, des prisons et des commissariats ont été la cible d'attaques à travers le pays. Des centaines de détenus s'étaient ainsi évadés de la prison de la capitale Kinshasa et de Beni.
Au Rwanda, deux jours avant l'élection présidentielle, la commission électorale du pays a fait une sortie, déclarant qu'elle n'est pas dérangée par ceux qui suggèrent que le résultat est connu d'avance. John Lyndon.
Nous ne sommes pas gênés en tant que commission et je pense aussi que les Rwandais ne sont pas gênés. Nous organisons des élections, nous dépensons de l'argent parce que nous voulons construire un système que nous avons commencé en tant que Rwandais, a déclaré à VOA Charles Munyaneza, secrétaire exécutif de la commission électorale. Plus de 6,9 millions de Rwandais sont appelés à participer à la troisième élection post-génocide. Pendant la campagne, les partisans du président Paul Kagame ont fait savoir que les élections sont terminées et qu'ils attendent simplement le jour du scrutin. L'actuel président devrait largement l'emporter vendredi. Ni Franck Habineza du Parti vert, encore moins le candidat indépendant Philippe Mbayimana, ne dispose de solides bases électorales pour lui faire ombrage. Lors des deux dernières élections, Paul Kagame a gagné avec au moins 93% des voix. Sous son règne, le Rwanda a connu un déclin de la pauvreté et une croissance économique stable, bien que les groupes de défense des droits de l'homme accusent le président de réprimer continuellement toute dissidence.
L'ancienne présidente du Malawi, Joyce Banda, clame son innocence et l'a promis de regagner son pays pour faire face aux accusations de corruption. Les précisions de Solange Nyamulisa.
La justice du Malawi a émis un mandat d'arrêt contre Madame Banda pour abus de pouvoir et blanchiment d'argent. L'ancienne présidente qui vit ici aux États-Unis aurait siphonné des millions de dollars du trésor malawite dans le scandale dit du cash gate qui a éclaté en 2013. Plusieurs responsables gouvernementaux et hommes d'affaires sont actuellement en prison en rapport avec cette affaire. Dans une interview accordée à l'agence Reuters, l'ancienne présidente assure avoir été la première dirigeante du Malawi à avoir mis sur pied une commission chargée d'éradiquer la corruption. Elle a affirmé n'avoir pas été mise en cause par l'audit qui a épinglé nombre de ses collaborateurs. Président du Malawi de 2012 à 2014, Joyce Banda a quitté le pouvoir après sa défaite électorale face à Peter Mutharika. Elle s'est installée peu après ici aux États-Unis et travaille pour le centre Woodrow Wilson et le Centre pour le développement mondial, deux cercles de réflexion de Washington.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a envoyé hier le message suivant à la Corée du Nord « Nous ne sommes pas votre ennemi ». Et ce, pendant que la Maison-Blanche continue de souligner que toutes les options sont sur la table pour mettre un terme au programme nucléaire et de missiles balistiques de Pyongyang. Lors d'une rare apparition pendant un briefing du Département d'État, M. Tillerson a déclaré que les États-Unis ne sont pas à la recherche d'un changement de régime.
Le chef de la diplomatie américaine a ajouté « Nous ne sommes pas à la recherche d'un effondrement du régime. Nous ne sommes pas à la recherche d'une réunification accélérée de la péninsule. Nous ne cherchons pas une excuse pour envoyer nos soldats au-delà du 38e parallèle. » Malgré ce que M. Tillerson a appelé la menace nord-coréenne inacceptable pour les États-Unis, Washington espère qu'à un moment donné, les Nord-Coréens commenceront à comprendre cela et que nous aimerions nous asseoir pour avoir un dialogue avec eux.
Concernant les relations entre les États-Unis et la Russie, le secrétaire d'État Tillerson a dit qu'il avait averti à plusieurs reprises son homologue russe Sergueï Lavrov que les liens entre les deux pays sont mauvais et qu'ils pourraient empirer. Et c'est ce qui vient de se passer. Il répondait à une question sur la réduction drastique du nombre de diplomates américains à Moscou en représailles aux sanctions du Congrès américain contre la Russie à cause de son ingérence dans la présidentielle américaine de 2016. Pour M. Tillerson, il n'est pas très content, tout comme le président Donald Trump, de la manière dont le Congrès s'y est pris, estimant que ces sanctions ne sont pas de nature à aider. Néanmoins, a-t-il précisé, le président Trump promulguera de telles sanctions.
Le Sénat américain a confirmé mardi par 92 voix contre 5 la nomination de Christopher Wray à la tête du FBI et la police fédérale 3 mois après les limogeages surprises de son prédécesseur James Comey par le président Donald Trump. Christopher Wray, 50 ans, s'était notamment assuré le soutien des parlementaires des deux camps en affirmant lors d'audience publique en juillet qu'il préférerait démissionner plutôt que de céder à d'éventuelles pressions de la Maison-Blanche.
En Afghanistan, un attentat suicide contre une mosquée chiite de Herat dans l'ouest du pays a fait mardi soir près de 30 morts et plus de 63 blessés, et ce au lendemain d'un assaut contre l'ambassade d'Irak à Kaboul, revendiqué par le groupe État islamique. Cette attaque n'avait pas été revendiquée dans l'immédiat. Mais depuis un an, cette organisation djihadiste a visé à plusieurs reprises des foules et des mosquées de la minorité chiite d'Afghanistan. Les talibans ont d'ailleurs rejeté mardi soir toute responsabilité dans cette opération sur leur compte Twitter et par un message WhatsApp envoyé à l'AFP. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho est Kiabadou.
Yérim Sow reprend Tigo Sénégal à la place de Kabirou Bodj. Tigo Sénégal sera finalement vendu à un consortium contrôlé par Yérim Sow, Xavier Niel et la famille Eridje. Tigo, filiale de Millicom, a annoncé avoir mis un terme à l'accord de cession de Tigo Sénégal à Wari depuis février dernier. Le groupe sénégalais de transfert d'argent avait prévu de payer 129 millions de dollars pour ce rachat. Bodj était également intéressé mais ne serait pas parvenu à réunir les fonds nécessaires pour finaliser l'opération. Le ministère ivoirien du commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME l'a déjà annoncé. À partir d'aujourd'hui, le paiement des taxes et droits de commerce extérieur se feront par e-paiement. Par ailleurs, la Banque mondiale a financé un système informatique traçant en temps réel les déclarations en douane entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui est opérationnel depuis fin juillet. L'objectif est d'optimiser les échanges d'informations sur les exportations et transits entre les deux pays voisins. Cette interconnexion veut faciliter le transport et le commerce entre Abidjan et Lagos. Le ministère de l'Investissement et de la Corporation internationale de l'Égypte et l'agence régionale COMESA viennent d'annoncer la reconduite du forum Sharm el-Sheikh for Africa 2017. Pendant 3 jours, 1000 participants, dont des chefs d'État et des dirigeants d'entreprises, sont attendus dans le but de promouvoir le commerce et l'investissement en Afrique.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Où est Neymar? Où va-t-il signer? C'est la question brûlante à 222 millions d'euros qui anime le mercato cet été en football.
Doha, Paris ou Barcelone, mais où va Neymar? Lui-même s'en amuse, l'attaquant brésilien du FC Barcelone de retour de Chine qui s'est signalé hier à Dubaï. Il a laissé entendre qu'il rentrait en Espagne alors que des médias évoquaient Doha ou Paris. Une chose est sûre, Neymar sera à Barcelone ce matin pour la reprise de l'entraînement. La reprise du Barça a en effet été programmée ce matin, alors que la tournée américaine de pré-saison s'est couronnée par une victoire contre le Real Madrid. 3-2, c'était samedi à Miami. La reprise a donc été fixée à ce matin et tous les joueurs sont convoqués, comme l'a expliqué le club catalan.
En tout cas, le Barça a bloqué le paiement d'une prime à Neymar.
Oui, Barcelone a par ailleurs confirmé avoir bloqué le paiement d'une prime de 26 millions d'euros à Neymar. Cette prime avait été négociée il y a un an quand le joueur, déjà approché par le PSG, avait renouvelé son contrat avec les Blaugrana jusqu'en 2021. Ce contrat incluait une prime de prolongation pour Neymar à la fin de la première année, ainsi qu'une augmentation de sa clause de cession de 200 à 222 millions d'euros.
Sanchez annonce lui aussi à Paris, a repris l'entraînement en Angleterre.
L'attaquant s'est finalement entraîné hier avec Arsenal après avoir manqué la pré-saison des Gunners en Australie et en Chine sur fond de rumeurs de transfert. Convoité par plusieurs grands d'Europe, dont le Paris Saint-Germain et Manchester City, Alexis Sanchez, 28 ans, était attendu à l'entraînement dimanche, mais il était grippé, comme il l'avait assuré sur son compte Instagram.
La Ligue des Champions en Europe.
Troisième tour préliminaire retour ce soir. L'Ajax Amsterdam est favori pour la qualification en recevant Nice après un bon match nul à l'aller, 1-1. Le CSKA Moscou défendra 2 buts d'avance contre l'AEK Athènes. Le Baté Borisov qui doit remonter 1 but de retard face au Slavia Prague. Même chose pour Vardar qui se déplace sur le terrain du FC Copenhague. Les Young Boys de Berne qui doivent remonter 2 buts de retard après leur défaite 3-1 à l'aller contre le Dynamo Kiev. Situation serrée entre le Victoria Plzeň et le Steaua Bucarest. 2-2 à l'aller en Roumanie. Enfin, le Partizan de Belgrade qui se déplace chez l'Olympiakos. Les Grecs l'avaient emporté 3-1 à l'aller.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les Rwandais se rendent aux urnes vendredi pour choisir leur président. Trois candidats sont en lice, dont Paul Kagame, le président sortant, Franck Habineza, leader du Parti Vert, et Philippe Mayimana, candidat indépendant. Monsieur Kagame, l'homme fort de Kigali, est donné largement favori sur le déroulement de la campagne. Risfala joint Jean-Claude Tezimana, secrétaire général du Parti Vert à Kigali.
Jusqu'à maintenant, ça va. Nous sommes libres. Nous faisons nos activités de la campagne partout dans le district du pays sans avoir de difficultés. Mais au commencement, on avait beaucoup de problèmes dans la province de l'Ouest ainsi que dans la province de l'Est. Nous avons rencontré des problèmes.
C'était quel genre de problème?
L'endroit où on avait commencé, c'était dans le district de Lucize. Les gens avaient peur. On ne savait pas pourquoi. Mais on a aussi le comité du parti. On a essayé de les appeler. Mais le jour J, ils ont coupé leur téléphone mobile. On a trouvé l'un d'eux. Il a dit qu'ils ont peur. Ils avaient peur par les différentes intimidations. Arrivant là-bas, on n'avait pas beaucoup de gens qui étaient là pour écouter notre candidat.
Est-ce que tous les candidats ont le même accès aux médias?
Nous avons le même accès aux médias publics, aux médias de l'État. Les journalistes viennent. Il n'y a pas de discrimination sur les médias publics.
Tout le monde dit que c'est Paul Kagame qui va gagner le scrutin.
Les gens disent toutes ces choses-là. Ces gens-là, je pense, sont des gens qui sont les sympathisants de Paul Kagame. Ce ne sont pas tous les gens qui habitent au Rwanda. Beaucoup de gens maintenant disent que c'est nous qui va gagner. Parce que si on rencontre les gens ici à ville de Kigali, sur les motos, quand vous parquez votre véhicule, les gens viennent là où le candidat s'arrête. Il y en a beaucoup de gens qui entourent le véhicule et qui disent qu'ils vont voter Franck Habineza.
Et vous pensez que le scrutin va se dérouler de manière transparente?
Jusqu'à maintenant, ça va. Comme je t'ai dit en commencement, ça n'était pas bien. Parce que même la province de l'Est, ainsi que à Niagatale, ainsi à Kilehe, le leader du gouvernement local nous a empêchés de rouler nos campagnes à l'endroit qu'on avait demandé, qu'on avait informé le maire de dessus. Ils nous ont refusé le matin. Une chose qui n'est pas acceptable, que la loi dise que si on refuse pour le candidat de ne pas dérouler la campagne dans l'endroit qu'ils ont communiqué, il faut bien leur dire avant 12 heures. S'il n'y a pas toutes ces durées de 12 heures, ce n'est pas acceptable. Mais à Gatibo, ils ont respecté le temps, mais à Niagatale, nos personnes nous ont dit qu'ils ne sont pas acceptés d'entrer sur le terrain qu'on avait prévu.
Jean-Claude Tezimana, secrétaire général du Parti Vert à Kigali.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Les inquiétudes et interrogations que suscitent les rendez-vous électoraux en Afrique. Pourquoi un bon nombre d'Africains n'ont pas ou ont très peu confiance dans les processus électoraux, comme l'indique l'Institut Afrobaromètre? Y a-t-il des différences entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest? Et que faire pour mettre un terme aux irrégularités et fraudes électorales? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Au Mali, insécurité croissante après les autres localités du pays. Bamako, la capitale, est à son tour affectée par les braquages, attaques à main armée et coupeurs de route, nous dit notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
L'insécurité à Bamako n'est plus à cacher, mais il y a d'abord des actes de vandalisme nés de la contestation de la révision constitutionnelle. Cette nouvelle situation s'est traduite par des actes incompréhensibles. Siaka Djamoutene, journaliste.
Les différents cas d'actes de vandalisme que la capitale malienne a enregistrés ces derniers temps-là n'honorent pas du tout le pouvoir actuel. Parce qu'après une polémique autour de la révision de la constitution, il y a un autre comportement qui s'est vraiment propager dans la capitale malienne des actes de vandalisme contre des personnalités du pays, à savoir le véhicule de la femme du chef de file de l'opposition, la présidente de la Cour constitutionnelle, ainsi que le chroniqueur Madouka Journal. Vraiment, c'est des actes qui n'honorent pas le Mali.
La découverte d'une boîte contenant environ une vingtaine de cartouches de divers types d'armes, pistolets et mitrailleurs plus fusils, aux alentours du domicile de la présidente de la Cour constitutionnelle, n'est point une surprise pour Amadou Kone, agent comptable.
Les attaques se répètent de jour en jour. Il est temps que l'autorité se mette au boulot, essaye de corriger les systèmes, aussi de vérifier leur méthode d'intervention au niveau de la ville de Bouango et partout au Mali. Et pendant ces deux jours, les trois personnes que vous venez de citer, il y en a beaucoup dont leur nom ne figure pas. Sinon, on n'en finit pas. Chaque jour, il y a des gens qui sont attaqués par-ci, par-là.
Malgré les dispositions prises par le ministre de la Sécurité, les Bamakois trouvent qu'il y a de l'insécurité. Les HIC, les auteurs ne sont ni arrêtés, encore moins punis. Tiaka Djamouteni.
L'attaque qui s'est produite devant les chaises de l'Ecobank, jusqu'à présent, l'enquête n'a pas abouti. On a toujours ouvert des enquêtes, mais ça n'aboutit pas. Bon, il faut qu'on nous dise la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens, vraiment, ne se sentent plus en sécurité. Il y a une psychose qui règne dans la capitale. Vraiment, il faut qu'on arrête. Au point que certaines personnes sont en train de dire qu'ils vont s'armer. Et ça, ça n'honore pas le Malien. Ça mène vers le chaos. Bon, l'État est interpellé et il est responsable.
L'insécurité que la Cour constitutionnelle avait qualifiée de résiduelle est aujourd'hui récurrente sur l'ensemble du territoire national. Les députés de l'opposition Amadou Araba Doumbia accusent le président Ibeka.
La responsabilité est individuelle. Le premier responsable de ce pays, c'est le président de la République. Et par ricochet, son gouvernement. Ils sont là pour servir le peuple malien. Ils sont là pour distribuer au peuple malien la sécurité et bien d'autres choses pour commander le bien-être. C'est leur mission.
Amadou Kone pense le contraire. Pour lui, les forces de sécurité ont toujours besoin des informations des populations pour mieux les sécuriser.
Il y a la part de la population aussi. C'est-à-dire que la population soit aux côtés des forces de sécurité du Mali en les informant à temps et des communications, essayer de dénoncer les coupables ou je dirais les soupçonner à leur côté pour qu'ils puissent mener les investigations. Donc je dirais que là, on peut accuser les dégoûtés, mais le principal acteur, c'est l'autorité.
Pour sortir de cette situation, le gouvernement malien veut mettre en œuvre une nouvelle politique de sécurité qui commence par la sécurisation du centre du pays avec le retour de l'administration. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Le Togo cherche à adhérer au Commonwealth. Son adhésion à cette organisation anglophone va de soi, entend-on dans les couloirs de la diplomatie togolaise. Pour les uns, le Commonwealth va permettre aux Togolais de mieux maîtriser la langue anglaise. Pour les autres, cette communauté doit imposer des préalables au Togo avant d'accepter sa demande. De Lomé, notre correspondante Kayu Lawson fait le point.
Le Togo veut emboîter le pas au Rwanda et au Mozambique en devenant membre du Commonwealth sans jamais avoir été un protectorat ni une colonie britannique. Depuis 3 ans déjà, le pays fait la cour diplomatique à cette communauté des pays anglophones afin d'y adhérer. À Lomé, on estime que la demande d'adhésion du Togo au Commonwealth est légitime. Robert Doucet, ministre togolais des Affaires étrangères.
L'histoire du Togo lie le Togo désormais avec toutes les anciennes colonies anglaises. Le Togo avait perdu une partie de son territoire au profit du Gold Coast, qui est devenu le Ghana aujourd'hui. À ce sujet, je pense que nous avions une bonne partie de la population togolaise qui se retrouve du côté du Ghana, qui parle très bien anglais. Nous avons l'une des rares frontières dans le monde, et particulièrement en Afrique, où on voit la capitale d'un pays être à la frontière avec un autre pays. Parce que le Togo a cette histoire et parce que beaucoup de Togolais partagent certaines valeurs avec le Commonwealth, le Togo a tout intérêt. C'est même légitime pour le Togo de faire cette demande de devenir membre du Commonwealth.
Adhérer au Commonwealth doit conduire le Togo à devenir un pays bilingue, souhaite l'Association togolaise des enseignants d'anglais. Nathan Omadaloc, président de cette association.
Notre vœu, c'est que le Togo soit totalement un pays bilingue. Et nous voulons que l'anglais devienne une deuxième langue. C'est-à-dire qu'il faut que nos collègues enseignants cessent de parler de l'anglais comme une langue étrangère, mais l'anglais doit devenir une seconde langue pour les Togolais, officiellement, pour que les jeunes puissent s'épanouir avec cette langue. si le Togo entre dans Commonwealth et qu'il est devenu bilingue officiellement, ça veut dire que dans la tête des enfants, ils comprennent que j'ai besoin de l'anglais pour réussir.
Avant que la demande du Togo ne soit approuvée, le professeur David Dosset, coordinateur des universités sociales du Togo, estime que le respect des principes démocratiques et d'état de droit doit être exigé à son pays.
Adhérer au Commonwealth, j'espère que les autorités de cette organisation auront à exiger du gouvernement togolais un certain degré de démocratie et de bonne gouvernance avant d'accepter l'adhésion du Togo au sein de cette organisation. Il ne s'agit pas d'accepter tout pays venant pour ensuite commencer à négocier le respect de droits fondamentaux comme les droits de la personne, l'abolition de l'impunité, d'arrêter tout ce qui est corruption, surtout au niveau supérieur de l'État, etc., etc.
À travers cette intégration au Commonwealth, le Togo veut entre autres élargir son horizon économique. Nous retrouvons le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Doucet.
Nous voulons diversifier nos intérêts et nos partenariats économiques et en étant dans une communauté comme le Commonwealth, nous pensons que cette grande opportunité. Nous travaillons déjà avec certains pays qui sont des pays anglophones et aujourd'hui on voit de plus en plus que ces pays, parce qu'ils sont des membres du Commonwealth, ils ont beaucoup de facilité, ils ont beaucoup d'ouverture vers d'autres pays qui sont des pays anglophones et nous pensons que le Togo a tout intérêt à profiter également de cet espace du Commonwealth.
La demande d'adhésion initiale du Togo devait être examinée lors de la prochaine réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth en Grande-Bretagne. En avril 2018, Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Comme chaque année, Washington accueille les jeunes leaders africains de demain réunis pour la Young African Leaders Initiative. Le programme YALI permet à 1000 jeunes Africains de venir échanger leurs expériences ici aux États-Unis pendant quelques semaines. Nicolas Puneau les a rencontrés. Voici son reportage.
C'est dans un grand hôtel de la capitale américaine que les participants du YALI 2017 se sont donné rendez-vous. Chacun a passé 6 semaines dans les universités américaines pour se former à de grandes thématiques telles que le leadership, le management de projet ou encore la collecte de fonds. La Sénégalaise Florence Diarra a eu l'opportunité d'aller à San Diego en Californie. C'est une jeune entrepreneuse de 29 ans. Elle n'en revient toujours pas de l'état d'esprit et de la confiance des Américains.
Les Américains sont développés, mais c'est d'abord un développement psychologique. Un petit Américain, tu le vois, tu sens cet ardeur de développement, il est confiant. Nous, les Africains, on peut être leader, mais des fois, on a peur de la pression sociale. Et je vois qu'aussi, les Américains sont ponctuels. Une des choses que je veux changer, back home, si je retourne, ça, je veux changer ça d'abord dans ma petite entreprise. C'est ce qui se répercute dans notre retard en matière d'économie, en matière culturelle.
Échanger avec les Américains, mais aussi entre Africains, c'est la force du YALI. Guy Kofi a beaucoup appris et compte bien mettre cette expérience à profit lorsqu'il rentrera en Côte d'Ivoire. Devenu non-voyant en 2009, il aide à l'insertion des handicapés dans le monde de l'entreprise.
C'est très enrichissant dans la mesure où je pense que chacun fait face à des challenges différents, mais au fond c'est la même logique qui est celle d'aller de l'avant. Comment certaines personnes arrivent avec le peu de moyens qu'on peut avoir à accomplir des choses au profit des autres.
Le développement de l'Afrique passe par les Africains eux-mêmes. Fleur Alexia Mabingue en est convaincue. Ce médecin centrafricain retourne à Bangui transformé, comme elle l'explique à VOA Afrique.
Ça a été une ouverture. C'est comme si j'avais un voile au visage. Ça m'a ouvert en fait des perspectives sur beaucoup de choses. L'Afrique, en fait, ce n'est pas un continent perdu. Il y a toujours beaucoup à faire en fait là-bas. Et qu'on n'a pas besoin de partir ailleurs, on peut rester chez nous pour pouvoir le développer.
Tous les YALI rencontrés regrettent de ne pas avoir vu et entendu Barack Obama, comme lors des précédentes éditions. Cette année, Donald Trump n'a pas fait le déplacement. Écoutez la déception de Badi Hama, originaire de Gao, au Mali.
Je ne vais pas pouvoir voir Obama, je ne vais pas pouvoir voir Trump. Le sommet ne connaît plus le sommet présidentiel, summit. C'est regrettable en fait. Nous aurons aimé rencontrer Trump, quel que soit ce qu'il est, quel que soit ce que d'autres peuvent l'approcher. Je crois qu'en tant que jeune Africain, si on l'approche, on pouvait tirer profit de lui, de sa personnalité et surtout de ses projets. Parce que c'est quand même un homme d'affaires qui a réussi dans la vie.
Le YALI 2017 a accueilli 1000 participants venus de tout le continent africain. Il sera d'ores et déjà renouvelé en 2018. Et Nicolas Pineau, Washington, VOA Afrique.
d'aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Alberson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.